Chapitre 6. C'est là qu'en étaient les choses à Dresde, lorsqu'un orage se formant à Lutzen vint fondre sur la tête du malheureux Colas et ranimer les espérances des seigneurs de Tronka qui résolurent d'en profiter pour le perdre. Jean Nagelschmidt, l'un des hommes réunis par Colas et congédié par lui à l'apparition de l'amnistie, avait trouvé bon de rassembler de nouveau, sur les frontières de la Bohême, une partie de ses anciens camarades et de faire, pour son propre compte, le métier que lui avait enseigné le maquignon. Ce misérable, pour imposer aux coquins qui se joignaient à lui et donner plus d'éclat à ses brigandages, se disait le défenseur de Colas. Il prétendait que l'amnistie promise à ceux qui retourneraient tranquillement dans leur foyer n'avait point été tenue, et que Colas, lui-même, par la plus lâche perfidie, avait été arrêté dès son arrivée à Dresde et mis entre les mains d'une garde. Dans des placards semblables à ceux de Colas, il invitait les chrétiens à venir se joindre à lui pour veiller à l'exécution de l'amnistie promise par le prince. Dans le fait, il ne s'intéressait nullement au sort de Colas, et tout cela n'était qu'un prétexte pour pouvoir se livrer de nouveau au désordre et au pillage. Les chevaliers ne purent cacher leur joie à la pensée de la nouvelle face qu'allait prendre toute cette affaire. Ils répandirent le bruit que Nagelschmidt avait pris les armes d'accord avec Colas, que celui-ci, après un faux semblant de soumission, avait caché sa troupe dans les forêts des environs, où elle n'attendait qu'un signal de lui pour en sortir de nouveau avec le fer et le feu. Le prince Christian de Meissen, très mécontent de cette tournure des choses, voulut avoir un entretien avec Colas. Il le fit demander, et le marchand s'y rendit avec ses deux fils que Sternbald lui avait ramenés du Mecklembourg. Après lui avoir fait quelques questions sur l'âge et le nom de ses enfants, le prince s'ouvrit à lui sur la rébellion de son ancien domestique, Nagelschmidt, et lui présentant le mandat de cet homme, il lui demanda ce qu'il avait à dire pour sa justification. Quelque vif et profond effroi qu'il ressentit à la vue de ce papier, le maquignon eut cependant peu de peine à se justifier devant un homme aussi juste que le prince des préventions qu'il accusait. Quelques papiers qu'il avait sur lui lui prouvèrent aussitôt l'invraisemblance de son accord avec Nagelschmidt, qu'il avait résolu de faire pendre à Lutzen pour le punir de son insubordination, lorsque l'amnistie avait paru. Il s'était quitté ennemi mortel. Colas, sur l'invitation du prince, écrivit sous ses yeux une lettre à Nagelschmidt pour lui représenter toute l'indignité de sa rébellion et l'avertir qu'en réunissant de nouveau ses gens après la publication de l'amnistie, il avait attiré sur lui toute la colère des lois. Le prince, ayant rassuré Colas en lui rappelant que tant qu'il serait à Dresde, l'amnistie ne pouvait être rompue, il baisa encore une fois les enfants, leur donna quelques fruits qui étaient sur la table, serra la main du marchand et le salua. Tous les efforts du grand chancelier pour terminer ce procès avant que quelques nouvelles charges contre Colas vînt aggraver sa cause furent paralysés par ceux des seigneurs de Tronka, dont le but était au contraire de le traîner en longueur. Renonçant à l'aveu muet de la faute qu'ils avaient opposée jusqu'alors à l'accusation, ils commencèrent à la nier entièrement. Ils prétendirent, tantôt que les chevaux de Colas avaient été retenus au château sans le consentement du gentilhomme, par la seule volonté du châtelain et de l'intendant, tantôt qu'ils avaient été attaqués d'une violente maladie peu après leur établissement à Trockenburg. Et enfin, ils produisirent un édit par lequel, 12 ans auparavant, le passage des chevaux du Brandenburg en Saxe avait été momentanément défendu à cause d'une maladie du bétail. Par ce document, clair comme le jour, la compétence du gentilhomme pour arrêter les chevaux sur la frontière se trouvait pleinement établie. Colas, ayant reçu de son digne voisin de Colassenbruck la permission de reprendre sa ferme, sous la condition d'un petit dédommagement, imagina de se servir du prétexte que sa présence était nécessaire pour terminer cet arrangement, afin de forcer ses juges à prendre une décision et à prononcer sur son destin. Il se rendit chez le grand chancelier et lui montrant la lettre de son voisin, il dit que sa présence ne paraissait pas nécessaire à Dresde pour le moment. Il désirait aller passer à Colassenbruck 8 ou 10 jours, au bout desquels il promettait d'être de retour. Le grand chancelier prévoyant tout le tort que pourrait lui faire une absence de quelques jours dans de pareilles circonstances, lui répondit d'un air mécontent que sa présence était plus nécessaire que jamais pour que le jugement ne se prononçât pas en faveur de ses adversaires. Mais Colas, l'ayant assuré qu'il avait une entière confiance en son avocat et renouvelant sa demande, le grand chancelier, après une pause, lui dit qu'il n'avait qu'à demander un permis au prince de Messeine. Colas, qui lisait dans le cœur du grand chancelier, s'affermit toujours davantage dans sa résolution, et se plaçant à sa table, il écrivit au prince de Messeine, comme chef du gubernium, pour obtenir de lui la permission de se rendre pour quelques jours à Colassenbrück. Il reçut du baron Siegfried de Wenck, qui remplaçait le prince de Messeine au gubernium pendant son séjour dans ses terres, la réponse que son désir serait exposé à son Altesse le prince électeur, dont on lui ferait connaître la volonté. Colas, dont le cœur commençait à battre avec inquiétude, attendit quelques jours la décision du prince. Une semaine s'étant écoulée tout entière sans qu'il reçût aucun message de la cour, il se décida à renouveler sa demande. Mais quelle fut sa surprise lorsque, le soir du jour suivant, après avoir vainement attendu la réponse désirée, il vit de sa fenêtre que sa garde avait abandonné le pavillon qui lui avait été assigné pour demeure. Thomas, qui l'appela pour lui demander ce que cela signifiait, répondit en soupirant. « Monsieur, tout ne va pas comme cela devrait aller. Les lansquenets sont plus nombreux aujourd'hui. Ils se sont dispersés tout alentour de la maison. Il y en a deux armés de lances à la porte de la rue, deux à celle du jardin, et trois autres se sont établis dans l'antichambre où ils prétendent passer la nuit. » Colas devint pâle comme la mort. Il entendit au même instant un cliquetis d'armes, qui lui prouva la vérité de ce que venait de lui dire le vieux Thomas. Quelque peu d'envie qu'il eut de dormir, il se mit au lit, où sa résolution fut bientôt prise pour le lendemain. Rien ne lui déplaisait plus dans le gouvernement que l'apparence de justice sous laquelle l'amnistie était rompue indignement. S'il était réellement prisonnier, ce qui semblait hors de doute, il voulait savoir pourquoi. Le lendemain matin, il fit atteler sa voiture, disant qu'il voulait aller à Lockwitz, chez un de ses anciens amis, qu'il avait rencontré à Dresde, et qu'il l'avait invité à le visiter avec ses enfants. Les lansquenets, voyant ses préparatifs, envoyèrent secrètement un des leurs à la ville, et peu de minutes après, Colas, qui paraissait tout occupé de l'habillement de ses enfants, remarqua quelques archers qui entrèrent avec leur officier dans la maison en face de la sienne. Il fit approcher sa voiture, y plaça ses deux fils, et après avoir consolé ses petites filles auxquelles il avait ordonné de rester avec la fille du vieux Thomas, il y monta lui-même, en disant au lansquenet qu'il n'avait pas besoin de l'accompagner. Mais à peine était-il assis que l'officier des archers, sortant avec sa suite de la maison où il était entré, vint lui demander où il allait et pourquoi il ne se faisait pas suivre de la garde que lui avait donnée le prince de Messeine. Colas répondit en souriant qu'il allait chez un ami dans la maison duquel il serait parfaitement en sûreté et qu'il voulait profiter de la liberté que le prince lui avait accordée de ne plus se servir de la garde dès qu'il le trouverait convenable. L'officier prétendit que le baron de Wenck, qui était en ce moment le chef de la police, lui avait ordonné de le faire garder soigneusement, et il le pria, puisqu'il ne voulait pas se faire accompagner de ses lansquenets dans sa partie de plaisir, de venir avec lui au gubernium pour éclaircir le malentendu qui, sans doute, causait ce conflit. Colas, impatient de voir enfin son sort se décider, lui dit qu'il était prêt à le suivre. Le cœur vivement ému, il fit rentrer les enfants et se rendit avec l'officier au gubernium. Le baron de Wenck se trouvait en ce moment même en conférence avec un des hommes de la bande de Nagelschmidt que l'on venait d'arrêter. Dès qu'il aperçut Colas, il lui demanda durement ce qu'il voulait, et celui-ci lui exposa humblement le désir qu'il avait d'aller à Lockwitz sans être accompagné des lansquenets. Le baron, changeant de couleur, lui répondit qu'il ferait bien de se tenir tranquille dans sa maison et de renoncer à la bonne chère qu'il comptait faire chez son ami. Puis, se tournant vers l'officier, il lui rappela qu'il avait reçu l'ordre de veiller sur cet homme et de ne le laisser sortir que sous la garde de 6 lansquenets armés. « Quoi ? » s'écria Colas. « Suis-je donc prisonnier ? Et dois-je croire que l'amnistie qui m'a été accordée à la face du monde soit si indignement violée ?»« Oui, oui, oui. lui répondit le baron d'un air emporté, puis lui tournant le dos, il retourna auprès de l'homme Nagelschmidt. Colas quitta la salle remplie de tristesse, car il voyait bien qu'il venait de perdre le dernier espoir de se sauver par la fuite. Cependant, il se félicitait intérieurement de se voir délivré de l'obligation de rester fidèle aux articles de l'amnistie. Nagelschmidt, vivement repoussé de tous les côtés dans les vallées de l'Ergebirge, prêt à succomber et privé de tout secours, tenta d'intéresser Colas à son destin. Étant instruit de la manière dont il était traité à la cour, il pensa qu'il ne serait pas difficile de l'engager à changer l'inimitié qui régnait entre eux en une nouvelle alliance. Il lui envoya, par un de ses hommes, une lettre à peine lisible où il lui offrait, à condition qu'il viendrait à Altenbourg se remettre à la tête de sa troupe, tous les moyens de s'échapper de Dresde. Il lui promettait d'être à l'avenir plus soumis qu'auparavant et de lui donner la première preuve de sa fidélité en venant lui-même l'arracher de sa prison. Le jeune homme, porteur de cette lettre, eut le malheur d'être attaqué d'une fièvre violente dans un village voisin de Dresde. Pendant le cours de sa maladie, la lettre tomba entre les mains des gens qui le secouraient, et dès qu'il fut rétabli, il fut arrêté et conduit par la garde au Gubernium. Le baron de Wenck, instruit de cette circonstance, se rendit chez le prince électeur où se trouvaient réunis les seigneurs Kunz et Inns de Tronka, et le président de la chancellerie, comte de Kalheim. Ces messieurs furent de l'avis qu'il fallait aussitôt arrêter Colas et porter contre lui une grave accusation pour ses secrètes relations avec Nagelschmidt, considérant que la lettre écrite par ce dernier ne pouvait avoir été que la suite d'une alliance antérieure avec le maquignon. Le prince électeur se refusait encore à rompre l'amnistie accordée par lui à Colas. Il lui semblait au contraire que cette lettre établissait la probabilité qu'il n'existait aucune alliance entre lui et Nagelschmidt, et il résolut qu'avant de rien entreprendre, on lui ferait remettre la lettre et que l'on déciderait de son sort d'après sa réponse. Le lendemain, le jeune homme fut tiré de sa prison, conduit au Gubernium où le baron lui remit sa lettre, et sous la promesse de le soustraire au châtiment qui l'attendait, il lui ordonna de la porter à Colas comme si rien n'était arrivé. Le maquignon, qui quelques jours auparavant aurait pour toute réponse livré le message entre les mains des lansquenets, aigri maintenant par l'injustice du prince qui l'avait fait prisonnier et persuadé qu'il était perdu sans retour, regarda le jeune homme avec tristesse et lui demanda de revenir au bout de quelques heures. Puis il écrivit à Nagelschmidt qu'il acceptait sa proposition de reprendre le commandement de sa troupe, qu'il le priait en conséquence de lui envoyer une voiture et deux chevaux dans la ville neuve de Dresde, et deux cavaliers hardis et courageux pour l'aider à se débarrasser des lansquenets, dans le cas où il ne pourrait les gagner. Qu'il refusait du reste sa présence à Dresde, la regardant comme inutile et dangereuse. Il joignit à ce billet un rouleau de 20 couronnes d'or pour l'indemniser de ses frais. Le messager étant revenu vers le soir, il lui remit le tout en le priant de bien remplir son message. Tout à fait indifférent à la rébellion de Nagelschmidt, son intention était de se rendre à Hambourg, avec ses 5 enfants, de s'y embarquer pour le Levant, pour les Indes orientales, ou pour toute autre contrée où le soleil luirait sur des hommes différents de ceux qu'il connaissait, car l'affaire de ses chevaux avait rempli son âme d'amertume et de haine contre l'humanité. À peine la réponse de Colas fut-elle parvenue au château qu'il fut arrêté par un ordre émané du cabinet du prince électeur, chargé de lourdes chaînes, et conduit dans la tour. Interrogé sur sa lettre à Nagelschmidt, il ne put nier qu'il l'avait écrite, et n'ayant rien à dire pour sa justification, il fut condamné à la marque et aux galères. Ce fut à cette époque que l'électeur de Brandenburg, animé du désir de sauver Colas, adressa à la cour de Saxe un édit par lequel il réclamait son sujet, le maquignon de Colasenbrock. Le vaillant capitaine Henri de Guezeau l'avait instruit depuis peu de l'histoire de cet homme extraordinaire et de la faute dont s'était rendu coupable son anti-chancelier, le comte de Kalheim. Le prince, indigné de la complicité de ce parent du gentilhomme, l'avait aussitôt disgracié et remplacé par Henri de Guezeau, qu'il chargea du soin de secourir Colas. Celui-ci, rempli de pitié pour le malheureux auquel il s'était toujours intéressé, résolut d'employer tous ses moyens à le sauver. Il demanda, au nom de son prince et des lois divines et humaines, qu'on lui livrât Colas pour qu'il fût puni des forfaits dont il était accusé, selon les lois du Brandenburg. De plus, il réclamait la permission d'envoyer à la cour de Dresde un procureur qui plaiderait de nouveau au nom de Colas et lui ferait obtenir justice pour la malheureuse affaire des chevaux. Après un premier refus, l'archi-chancelier de Guezot déclara que son prince saurait soutenir ses droits, que Colasenbruck était sur le territoire brandenbourgeois et que la sentence exécutée contre l'un de ses sujets serait regardée comme une atteinte aux droits des nations. L'électeur de Saxe, effrayé par la nouvelle de l'alliance que la couronne de Pologne venait de former contre lui avec la cour de Berlin, trouva prudent, ainsi que le chambellan Kunz et le prince Christian, de consentir à ce que demandait Henri de Guezot. Colas fut cédé à la cour de Berlin, qui, après s'être informé de l'accusation portée contre le maquignon, résolut d'en appeler à l'empereur, et lui envoya, pour cela, une relation détaillée de la guerre de Colas dans la Saxe, et de la rupture indigne de l'amnistie qui lui avait été accordée. 8 jours après, le maquignon partit de Dresde avec ses 5 enfants, escorté par le chevalier Frédéric de Malzane, que l'électeur de Brandebourg lui avait envoyé avec 6 chevaliers.